Catherine Mann au micro pour vous présenter un nouveau chemin de foi, un parcours spirituel intéressant par sa complexité et que nous essaierons de déchiffrer en le replaçant dans son contexte historique. J'ai choisi de m'attacher cette fois à la personnalité paradoxale d'un roi de France qui fut aussi un saint, donc Louis IX, Saint Louis, qui vécut au XIIIe siècle, de 1214 à 1270, dans ce XIIIe siècle qui fut considéré comme un véritable âge d'or pour la vie chrétienne. Lors de la précédente émission, nous avions quitté le jeune Louis juste après son sacre à Reims. En novembre 1226, il vient juste d'avoir 12 ans. Il est heureusement secondé par sa mère, Blanche de Castille, pour faire face à cette redoutable responsabilité. Mais à peine son règne commencé, donc dès 1227, il va déjà devoir faire face à une révolte. Quelques grands seigneurs qui vont se liguer pour essayer de prendre le roi sous leur contrôle en le séparant de sa mère. Il pense pouvoir dominer facilement cet enfant roi pour gouverner en son nom, ou plutôt profiter du pouvoir pour s'accaparer des terres et des richesses. Les meneurs de cette coalition sont le puissant comte de Bretagne et le plus modeste comte de Boulogne. Et ils vont rassembler des troupes armées, avec le projet d'intercepter le roi lors de son retour d'un déplacement à Vendôme. Alors, on sait, grâce à un historien de cette époque, Jean de Joinville, un contemporain proche de Saint-Louis, nous savons que ce projet échoua parce que, dit-il, le roi eut l'aide de Dieu. Alors, cette aide va se manifester par un impressionnant mouvement de défense populaire. Quand Blanche de Castille et son fils approchaient des troupes des adversaires, quelque part vers Corbeil, sur le chemin de Paris, ils se sont arrêtés, ils ont envoyé des messages d'appel à l'aide, qui ont été interceptés par le peuple, en général, ou répandus dans le peuple. Et en fait, tout le long de la route jusqu'à Paris, c'est le peuple qui se soulève et s'interpose contre les adversaires, tout en invoquant l'aide et la protection du Christ. Ce sont des habitants plus ou moins armés, d'ailleurs, qui luttèrent pour sauver le roi et permettre son retour à Paris avec sa mère. Et on dit que le tout jeune roi Louis fut extrêmement touché par cette expression de la fidélité populaire. Et le souvenir de cet événement va l'encourager toujours dans sa volonté de mériter la confiance et l'amour de son peuple. C'est son devoir, mais ça deviendra son souci. Alors, bien heureusement, le roi n'a pas que des ennemis. Il a aussi des alliés, par exemple le comte de Flandre, le comte de Champagne. Mais ça vous laisse deviner l'atmosphère qui régnait autour du pouvoir royal. Et ces conflits vont durer des années, au moins jusqu'en 1234, c'est-à-dire à la majorité de Saint-Louis, parce que là, on se dit qu'il n'est plus malléable. Mais les opposants vont changer de manière de faire. Ils vont abandonner le conflit ouvertement armé et prendre une manière beaucoup plus sournoise. La nouvelle arme choisie sera la calomnie. Et vous savez que c'est une arme extrêmement efficace. Le but va être maintenant de discréditer Blanche de Castille, toujours pour la séparer de son fils et pouvoir manipuler librement le jeune roi. Alors tous les coups sont permis pour mener une véritable campagne injurieuse. On va faire circuler des rumeurs, mais aussi des pamphlets, des écrits diffamatoires qui vont l'accuser des pires horreurs. Bon, toujours la même chose, débauche, immoralité, détournement de fonds publics, enfin, la litanie habituelle, mais surtout, une supposée influence néfaste sur son fils qu'elle veut empêcher de gouverner et de grandir. Et bien sûr, ça va fonctionner, parce qu'on se dit toujours, Vous savez bien, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc la pauvre, la manœuvre, elle est toujours utilisée aujourd'hui, hein. C'est de la politique au plus bas étage. Bref, l'ambiance au début du règne du jeune roi Louis est vraiment exécrable. À tel point qu'en 1230, Saint-Louis a donc à peine 16 ans, la situation s'envenime tellement qu'il va être nécessaire d'intervenir par la force, de prendre les armes et d'engager une campagne militaire contre les adversaires. Voilà, Saint-Louis doit d'abord monter contre le comte de Bretagne pour faire taire ses ambitions, et puis il va devoir descendre plutôt vers le comte de Champagne, son allié, qui est lui-même assiégé par les opposants. Alors bien sûr, le jeune roi n'est pas seul à mener ses assauts, il est entouré, soutenu, conseillé par des vassaux fidèles, mais quand même, pour le jeune Saint-Louis, c'est un vrai baptême du feu. Ça nous fait souvenir que la fonction royale suppose aussi que l'on soit un chef de guerre. Et souvenons-nous qu'avant d'être sacré roi, il a d'abord été adoubé chevalier, c'est la règle. Donc en tant que roi chevalier, Saint-Louis va assumer pleinement ses devoirs militaires. Et même si on en parle peu dans les récits de sa vie de saint, il saura se comporter de façon magistrale dans les combats. Alors c'est Jean de Joinville qui le dit, il n'aura jamais peur d'aller se mettre dans le péril avec les autres. Donc Saint-Louis se bat, et il se bat bien, avec courage et intelligence, et nous le verrons plus tard, surtout au moment des croisades, il va susciter l'admiration aussi pour son engagement militaire. Ça ne veut pas dire qu'il aimait la guerre, hein, loin de là, mais il respectait son devoir d'État. Quand il faisait quelque chose qu'il croyait juste et nécessaire, eh bien, il le faisait bien. Il connaissait les lois de la chevalerie et les appliquait avec sincérité. Mais il respectait aussi les lois de l'Église qui posaient des limites morales au combat. Pour se battre, il faut de bonnes raisons. Or, apparemment, à ce moment-là, c'était une bonne raison que de repousser des princes agresseurs, des vassaux révoltés, parce qu'ils ont violé leur serment de fidélité au roi. Bien sûr, Louis IX est un saint, mais c'est un saint laïque, donc bien incarné dans son époque, et qui fait face aux diverses nécessités de sa fonction royale. Parmi celles-ci, il y a la protection de son peuple, l'unité de son pays et la sauvegarde de la foi chrétienne. Et tout cela lui demandera d'être aussi un roi guerrier. Découvrir Saint-Louis âgé de 16 ans et qui vient d'endosser pour la première fois son rôle de roi chevalier et guerrier. Si par cet épisode il va grandir en expérience et en maturité, il va surtout y gagner en prestige personnel et ainsi réussir déjà à affirmer son pouvoir royal. Ce n'est plus un enfant par la force des choses. Même si au regard de la loi, il est toujours mineur et doit encore obéir à sa maman, qui est elle-même très pieuse et très obéissante à l'Église. Alors, c'est très certainement une bonne chose qui se développe intérieurement, rapidement, parce que la génération des conseillers, ceux qui l'avaient hérité de son père, commence à disparaître. Il faut se dire quand même qu'on ne vit pas très longtemps à cette époque. Mais aussi, c'est une chance parce que les responsables de la révolte des barons, comme on l'appelle, ben, eux aussi commencent à vieillir et à disparaître. Et voilà, donc ça finit par user l'opposition, on va trouver des compromis, les conflits vont s'apaiser. Voilà, la durée, l'unité territoriale va se consolider, mais la position du jeune roi va sortir extrêmement renforcée de cette période de crise. Il a une image déjà de roi guerrier qui impressionne, mais comme les soucis guerriers vont s'apaiser, Saint-Louis va commencer à chercher à s'affirmer sur le plan politique. Alors, la première occasion de manifester sa maturité politique fut une crise typiquement parisienne, un problème qui concernait l'université. Donc, nous sommes en 1229 et l'Université de Paris, c'est une institution encore jeune, hein, il n'y a pas longtemps, mais elle est extrêmement connue déjà pour sa brillante intelligence. Elle a reçu des privilèges de Philippe Auguste et elle tient aussi quand même ses statuts directement de la papauté. C'est une communauté quand même d'abord de clercs et d'abord une institution de chrétienté qui a le soutien du pape. Donc en principe, le roi n'intervient dans la vie universitaire que pour tout ce qui concerne le maintien de l'ordre public. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit déjà à cette époque, et bien qu'il fasse partie majoritairement du clergé, les étudiants sont remuants. Coutumiers de chahut, de fêtes très arrosées, enfin vous connaissez, et ça finit bien sûr, une bagarre va éclater dans un cabaret du Faubourg Saint-Marcel, et rapidement le pugilat va dégénérer en affrontement avec tous les bourgeois du quartier, enfin... Ça devient un tel micmac qu'on est obligé d'appeler les sergents royaux et leurs archers, c'est-à-dire les policiers de l'époque, pour rétablir l'ordre. Mais, déjà, leur intervention se passe mal. Trop brutale. La police blesse et tue quelques étudiants. Alors, comme on dirait de nos jours, le conflit se radicalise et les étudiants s'opposent à l'autorité, au pouvoir royal, exercée alors par Blanche de Castille, soutenue par le légat du pape. Voilà, l'ambiance de révolte, on croirait mai 68, hein, ça débouche sur la première grande grève connue en Occident. Tout s'arrête dans l'université, on ferme. Certains, et aussi bien des enseignants que des étudiants, vont même décider de quitter Paris, invités qu'ils sont par d'autres régions, d'autres grands seigneurs qui veulent profiter de l'aubaine. Donc le roi d'Angleterre va en aspirer beaucoup à Oxford, le comte de Bretagne va fonder l'université de Nantes, à Toulouse on les appelle pour fonder une nouvelle université, mais quand même la majorité restera assez proche de Paris, Orléans et Angers, les grandes universités. Et le conflit continue de s'envenimer, et ça durera 2 ans. Pendant lesquelles l'Université de Paris reste fermée. Car cette période est connue pour l'entêtement. C'est buté des deux côtés. Les universitaires pour obtenir leur indépendance et conserver leurs privilèges. Et du côté du pouvoir royal, c'est Blanche de Castille qui s'obstine pour affirmer son autorité. Elle veut maintenir son droit à faire régner l'ordre public comme elle l'entend. Et la crise est tellement bloquée que c'est finalement le pape Grégoire IX qui va intervenir et pousser aux négociations en rappelant à l'ordre l'évêque de Paris et Blanche de Castille elle-même. Mais rien à faire. Et c'est là que finalement Saint-Louis va apparaître et intervenir pour la première fois politiquement, et il va s'opposer, je suppose assez gentiment, mais s'opposer à sa mère pour la ramener à la raison et pour qu'elle fasse les concessions nécessaires. Parce que Saint-Louis est parfaitement conscient de l'importance que peut avoir l'Université de Paris, d'abord pour la formation des cadres indispensables au bon fonctionnement de l'État. C'est toujours mieux d'avoir des gens formés. Mais plus simplement pour conserver l'image et la bonne réputation de la France sur le plan international, parce que l'université qui a fait de Paris la capitale intellectuelle du monde chrétien, c'est véritablement la vitrine de la France. Alors, Saint-Louis va s'investir vraiment personnellement pour régler le problème, d'abord en payant une amende en réparation pour les violences subies par les étudiants de la part de la police. Ensuite, il va renouveler, bien sûr, les privilèges accordés à l'université. Il va aussi exiger une contribution au dédommagement de la part des bourgeois qui se sont battus. Donc, tout le monde doit mettre la main à la poche. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'il va faire jurer à l'évêque de Paris, aux abbés de Sainte-Geneviève et de Saint-Germain-des-Prés, ainsi qu'aux chanoines de Saint-Marcel, donc tous les responsables locaux dans l'Église, il va leur faire jurer de ne plus jamais faire aucun tort aux membres de l'université. Alors, c'est ainsi, donc, contre l'avis de sa mère et contre les alliés de l'Église, Saint-Louis choisit de protéger l'Université de Paris et son effervescence intellectuelle. Il n'a pas tout à fait 18 ans. Mais déjà, il sait analyser lucidement une situation conflictuelle délicate, imposer son jugement, prendre pleinement ses responsabilités dans la crise, et face à sa mère, dont on ne sait malheureusement pas comment celle-ci a pris la chose, j'espère qu'elle fut d'autant plus fière de son fils et pas vexée d'avoir été contrariée. Mais il faut quand même voir cette position de Saint-Louis vis-à-vis du clergé qui est intéressante. Il s'oppose. C'est lui qui maintenant se fait obéir d'eux, parce qu'ils avaient fait preuve d'un entêtement pas raisonnable dans cette crise. Mais il faut dire quand même que dans le règlement de la crise, ce n'est pas rien. Il est soutenu par le pape Grégoire IX, qui souhaitait rétablir le bon fonctionnement de cette université de Paris, où il avait lui-même fait ses études. Il avait dû garder un bon souvenir. Voici donc Louis IX à 18 ans, donc pas encore majeur selon les lois de son époque, mais qui déjà s'affirme avec habileté pour résoudre pacifiquement un conflit social majeur. Donc sur le plan de la politique intérieure, il semble déjà prêt pour régner avec compétence. Et donc, il va s'intéresser à la politique extérieure. Il a envie de se confronter. Alors, voyons bien qu'à cette époque, le monde chrétien d'Occident a deux dirigeants majeurs. D'une part, le pape, et d'autre part, encore, l'empereur du Saint-Empire germanique. Alors, bien sûr, le pape n'a d'autorité, en principe, que dans le domaine spirituel. Et, de fait, l'empereur n'a aucun droit et aucun pouvoir juridique sur le royaume de France. Car depuis longtemps, les rois capétiens avaient tout fait pour se soustraire à l'ingérence impériale et se tenaient à l'écart le plus possible des empereurs. La France avait obtenu une autonomie absolue et c'était la conduite normale qu'il fallait continuer, toujours la position politique d'ailleurs de Blanche de Castille et des conseillers. Et la position que veut maintenir Saint-Louis, bien sûr. Il faut garder l'autonomie, mais il n'a pas exactement la même vision du monde chrétien. Il veut respecter cette vision d'une unité du monde chrétien très vaste, avec deux têtes, le pape et l'empereur, dont on sait justement à quel point ceux-ci furent souvent en conflit, mais il voulait harmoniser le tout. Son projet sera de travailler à un bon équilibre entre temporel et spirituel pour favoriser l'unité du monde chrétien. Saint-Louis voyait large. Au-delà des petites frontières de la France, il voulait instaurer et faire partie d'un monde unifié qui témoigne du message du Christ. Un monde de justice et de paix, un monde réconcilié depuis l'Occident jusqu'à l'Orient et à Jérusalem. Et dans sa réflexion, il se disait que le statut de l'empereur, ça lui semblait une bonne chose, un bon moyen pour atteindre cet idéal d'unification. Il faut dire que Frédéric II, à l'époque, avait à peu près la même optique, sauf que lui, c'était plutôt dans une optique d'avoir un pouvoir sur toute cette zone, mais enfin, une unité quand même. Et Saint-Louis va prendre l'initiative donc de se rapprocher de l'empereur Frédéric II. Et pour ça, il va de nouveau prendre ses distances politiques vis-à-vis de sa mère et de ses conseillers. De nouveau, il s'oppose à leur tentation de se replier et il va engager une relation d'amitié, dit-on, avec l'empereur Frédéric. Pas du tout une relation de soumission, une relation de fraternité et d'assistance mutuelle fidèle. Ils font des petits traités quoi, pour se jurer fidélité parce que tous les deux visent la même chose, une chrétienté vaste et unie, dont évidemment les motivations chez l'empereur étaient moins d'ordre spirituel que pour Saint-Louis, mais ils s'entendent, ils signent des traités et c'est quand même cité, des traités quasi d'égal à égal avec l'empereur. Et on peut lire des points intéressants qu'il obtient pour la France. L'empereur va s'engager à intervenir, par exemple, contre les manœuvres anti-françaises du roi d'Angleterre, fameux allié. Et il va même s'engager, l'empereur, contre les tentatives de déstabilisation qui pourraient survenir de nouveau à l'intérieur du royaume de France. Donc Saint-Louis a fait de l'empereur un soutien plutôt qu'un adversaire. Alors dès 1232, il n'a toujours que 18 ans, il a posé déjà les fondements de la politique extérieure qu'il va vouloir garder jusqu'à la fin de sa vie, en principe, en tout cas, une politique toute en sagesse, faite de main tendue vers l'autre, de négociations, de compromis, de conciliation. Une politique qu'il voudra entièrement au service de la construction, alors là, utopie, en tout cas vision spirituelle, d'un monde à l'image du corps du Christ, préfigurant le royaume de Dieu. Saint-Louis voit loin, très très loin, mais il n'est encore qu'au tout début de sa vie quand même, moi je dirais encore porté par l'enthousiasme de l'adolescence, et il n'imagine sans doute pas encore toutes les difficultés qu'il va rencontrer. En tout cas, il est sûr que déjà, il impressionne tout le monde. Mais comme vous le savez, doux ne veut pas dire mou. Et le jeune roi a également une haute idée de la justice. Et son devoir d'implication royale aussi dans le domaine de la justice. C'est pourquoi, bien qu'il ait un désir de paix, il ne va pas hésiter à entrer encore en conflit. Et en conflit, là, avec des évêques. Parce que, il faut vous dire qu'à cette époque, ils confondaient souvent le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir temporel. Alors, un exemple, à Beauvais, l'évêque était aussi le comte. Donc, il avait le droit de battre monnaie. Il choisissait lui-même le maire de la ville. Il administrait la fiscalité avec, semble-t-il, nous raconte-t-on, une conception très personnelle de la justice fiscale. Et surtout, chose que Saint-Louis n'admettait pas, il se servait allègrement de l'arme de l'excommunication pour s'assurer le pouvoir. Vraiment le mélange des genres avec lequel Saint-Louis n'était pas du tout d'accord, et il va intervenir d'une manière tout à fait spectaculaire. Avec arme et bagage, il va aller lui-même régler la situation sur place. Il va faire emprisonner alors plein de monde, je ne vous cite pas tout, mais tout ça, il va mettre l'ordre très vigoureusement, il va faire saisir les biens temporels de l'évêque, il va même jusqu'à saisir son vin pour aller le vendre. Donc c'est dire que il a extrêmement de poigne, il n'a toujours que 18 ans. Il veut imposer la supériorité de la justice royale sur la justice épiscopale, surtout quand elle est un peu ambiguë. Il veut en fait faire grandir la notion d'un État et d'un pouvoir royal fort. L'affaire va quand même durer des années, hein, au moins 8 ans, parce que l'évêque de Beauvais ne va pas se laisser faire et il va appeler à l'aide d'autres évêques qui vont aussi essayer de garder leurs petits privilèges, et ça montera jusqu'au pape. Mais même le pape ne réussira pas cette fois à ébranler la détermination de Saint-Louis. Il va rester inflexible et sans faiblesse vis-à-vis de ceux qu'il considérait comme des abus ecclésiastiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il a un sacré caractère. Mais n'allons pas en déduire qu'il n'était pas vraiment un bon chrétien. C'est un drôle de paroissien, mais c'était au contraire un très bon chrétien, nous le verrons la prochaine fois. Il était extrêmement dévot et très profondément croyant. Et je vous dis maintenant au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.